D'abord, bonsoir. Alors, oui, c'est une longue journée parce qu'avant de l'arrivée, on a eu la réunion de l'Académie Goncourt pour la dernière liste. Et c'était un déjeuner assez bon, laborieux, oui. Et donc, les quatre livres qui restent en liste, dans lesquels on va prendre le Goncourt cette année. Alors, il y a Carole Martinez, du côté des murmures, enfin, le titre exact, j'ai oublié. Le livre d'Alexis Génie, L'art français de la guerre.
Que nous recevrons jeudi.
Ah, c'est un livre merveilleux, vous allez voir. Ensuite, Alain Trouillot, qui est un haïtien, La belle amour, c'est magnifique. Et puis, Georges Chalandon, Retour à Guilibert. Mais je vais vous donner la liste exacte, ce que je l'ai là. Et j'ai dit que c'est quand même assez... Il faut arriver à être juste tout en restant dans la littérature. C'est pas facile. Bon. Je sais plus où j'ai mis mes papiers. C'est quand même... Bon.
C'est pas grave.
Voilà. Je redonne alors les titres parce que quand même,
ouais.
C'est important. Alors, Georges Chalandon, Retour à Quillyberg, chez Grasset. Alexis Génie, L'art français de la guerre, chez Gallimard. Carole Martinez, Du domaine des murmures, chez Gallimard. Et Lionel Trouveau, Label, Amour humaine.
Actes Sud,
oui. Les quatre sont d'excellents livres. Évidemment, il y a d'autres très bons livres que nous n'avons pas pu retenir, mais c'est la loi du genre. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors, maintenant, nous allons rester dans la littérature.
Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on reste dans la littérature, parce que je crois que beaucoup de gens sont venus pour parler aussi du monde arabe.
Oui, mais on peut, à travers la littérature, parler du monde arabe, bien sûr.
Oui,
par exemple, je prends Par le feu. Par le feu, c'est un texte strictement littéraire qui a une valeur partout. Enfin, ce n'est pas du tout un texte qui parle que du monde arabe, mais c'est l'histoire de quelqu'un qui a été humilié systématiquement et plusieurs fois par les forces de l'ordre dans une ville. Sont nommés le monsieur, il s'appelle Mohamed, c'est tout. Et alors j'ai imaginé sa vie, sa famille, comment les choses en sont arrivées à un tel degré d'humiliation et de mépris jusqu'à préférer mourir plutôt que de continuer à subir les vexations et l'injustice des forces de l'ordre dans son pays. Et qui va s'immoler par le feu, sans penser, c'est pas du tout un acte prémédité, qui n'appartient absolument pas à la culture arabo-musulmane, c'est ni dans l'islam, ni dans le monde arabe qu'on fait ce genre de choses. Et puis, ça s'est passé un 17 décembre, et voilà, cet homme va être l'étincelle, justement, qui par le feu va déclencher quelque chose qui était là, qui était présent dans les esprits, et la révolte va se répandre comme une traînée de poudre. Donc, mais c'est un texte qui est valable partout. C'est pas uniquement le cas tunisien ou égyptien. C'est à partir du moment où un être humain a été si humilié, il lui arrive d'exploser, de vouloir rejoindre la dignité. Et sa dignité, c'est quoi? C'est simplement ne plus exister à genoux dans un système dictatorial. C'est ça. Alors, c'est un texte très littéraire. C'est pas du tout... c'est pas une analyse ni sociologique, ni politique. Et c'est ce qui fait que ce texte, curieusement, a été traduit dans beaucoup de pays, beaucoup de langues. Bon, en même temps que l'étincelle, mais le fait qu'il ait été publié à part et non pas comme dans certains d'autres pays dans le même livre, ça fait qu'il y a une distinction entre la création littéraire, qui peut témoigner du réel, qui peut dire par la littérature, par l'imaginaire, par la création, témoigner de l'actualité. Et c'est ça qui... Et là, nous avons évidemment une analyse politique très classique, même si je me suis permis de faire un peu de travail littéraire en pénétrant dans la tête de certains dictateurs pour savoir ce qui se passe dedans. Donc c'est en même temps un travail littéraire et politique ou sociologique.
Alors, effectivement, on sent bien la valeur d'universalité de Par le feu et la volonté qui est la tienne de ne pas situer cela en Tunisie, à Sidi Bouzid. On voit quelquefois le personnage aller vers la mer alors que tout le monde sait qu'à Sidi Bouzid, il n'y a pas la mer.
Oui, mais justement, c'est parce que les mêmes gestes ont eu lieu en Algérie, au Maroc, en Égypte. Et pour des raisons identiques, c'est-à-dire que dernièrement, vous avez tous suivi cette tragique histoire de cette prof de mathématiques à Béziers qui s'est immolée par le feu au milieu de la cour. C'est quelque chose. C'est quand même quelque chose d'assez contagieux dans la mesure où il y a eu, bien avant d'ailleurs Mohamed Bouazizi, il y a eu d'autres immolations par le feu, pas uniquement en Tunisie, mais dans le Maghreb. Mais on n'a pas fait attention, et ça s'est reproduit plusieurs fois. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du choc métaphysique, c'est-à-dire que quelqu'un décide de dire publiquement, parce que c'est un acte très violent. Non seulement on peut se donner la mort en avalant une petite pilule, mais non, là c'est quelque chose de beaucoup plus violent. On se donne la mort publiquement dans une relation aux gens qui passent. C'est-à-dire qu'on veut concerner tout le monde. Ce n'est pas une mort solitaire, ce n'est pas une mort égoïste, ce n'est pas un suicide par désespoir parce qu'on a raté sa vie. Non, c'est un suicide politique. C'est-à-dire qu'on fait ça pour que les gens sachent. Oui. Parce que c'est spectaculaire. Et c'est vrai éclair. Que le feu est quelque chose de spectaculaire. Et c'est quelque chose de fascinant et en même temps de dramatique, de tragique.
C'est aussi, enfin, tu disais que c'était un livre que tu avais voulu très, très littéraire, mais par rapport à de précédents romans, il est d'une simplicité, c'est tout à fait voulu, cela, les phrases
d'être très courtes. Bien sûr, c'est un travail, je dirais que c'est le travail de presque 35 ans d'écriture, parce que c'est... Moi, c'est ce à quoi j'aspire de plus en plus, c'est d'arriver à cette simplicité. Mais je pense que pour y arriver, il faut avoir travaillé énormément en amont. La preuve, c'est que j'ai été très surpris cet été de voir, de recevoir des mails d'enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui l'ont lu. Et du coup, je l'ai donné. J'étais dans une école primaire à Tanger récemment. Et la prof leur a donné à lire. C'était des enfants en la dernière année du avant d'entrer au collège.
Cours moyen.
Ils avaient entre 10 et 11 ans, quoi. Et ils l'ont lu et ils ont été très intéressés. Ils ont posé des questions et j'étais ravi de faire un débat avec des enfants assez jeunes sur un thème dramatique. Mais c'est ça qui fait que parfois la littérature peut jouer un rôle important avec un texte qui parle d'une épuré, dépouillé, mais qui va vers l'essentiel.
Cet essentiel, donc, ensuite... Alors, je n'ai pas très bien compris. Tu as dit tout à l'heure que dans certaines traductions, les deux livres ont été associés.
Ça me donne un peu l'image de certaines sociétés. En Allemagne, ils ont associé les deux, c'est-à-dire qu'ils ont mis un seul livre.
Avec un seul titre.
Un seul titre pour les deux, oui. En Italie, non, ils sont séparés. En Espagne, ils ont fait quelque chose de mieux. Ils ont fait l'étincelle, l'essai. Et ça, ils l'ont publié comme cadeau, qui lui donnait celui qui achète l'essai, il a un cadeau celui-là. Je ne sais pas. Enfin, au Japon, ils ont pris les deux textes. En Turquie aussi, en Grèce aussi, je ne sais plus dans quel autre pays. Enfin bref, ça dépend. Mais enfin, de toute façon, moi je trouve que ce sont les deux textes qui se parlent et qui sont face à face.
Et qui ont été écrits simultanément ?
Oui, bien sûr. J'ai écrit en même temps les deux, oui, bien sûr. Parce que quand j'ai commencé par l'étincelle, j'ai écrit, j'étais un peu frustré. Je me disais, c'est pas possible. Le travail, c'est un travail journalistique presque. Ça a été fait et refait par tellement de gens. Moi, je suis un écrivain, je ne suis pas du tout un analyste politique. Je vais faire autre chose. J'avais besoin d'écrire quelque chose de littéraire. C'est pour ça que j'ai fait ce petit récit par le feu.
Alors, l'étincelle, donc, effectivement, il y a une demi-douzaine de chapitres. Les deux premiers placent le narrateur dans la tête de Moubarak et dans la tête de Ben Ali. Deux cerveaux de dictateurs, mais en même temps quand même assez différents.
Oui, parce que moi, quand il y a eu d'abord la fuite de Ben Ali... Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il doit penser en ce moment ? Il est dans un avion, l'Europe ne veut pas de lui, il retourne à je ne sais pas où pour remettre du kérosène, il repart, il va à Malte, après il cherche, et finalement c'est l'Arabie saoudite qui accepte de le recevoir. Et je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui va débarquer dans un pays, l'Arabie saoudite, dans une sorte de palais où il y a toujours de la climatisation en permanence avec des boîtes de Kleenex partout, et qui va être là, et ça va être pour lui un choc, mais je ne sais pas s'il est capable de comprendre ce qui lui arrive et pourquoi ça lui arrive. Et je suis sûr et certain que tous les dictateurs, y compris Kadhafi, sont tous, comme Staline d'ailleurs, persuadés que ce qu'ils font, ils le font pour le bien du peuple. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est une découverte que j'ai faite, bien sûr, en pénétrant dans leur tête. Ils considèrent qu'ils ne font rien de mal. S'ils tuent des gens, mais il faut bien tuer des gens pour que d'autres puissent vivre. Il faut bien qu'il y ait de l'ordre. Il faut bien empêcher le pays de s'effondrer dans l'islamisme, par exemple, comme disait Ben Ali pour la Tunisie. Alors, il torturait, il tuait. Pour lui, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et même Saddam Hussein, quand il y avait son procès, il y avait une forme de sincérité sur son visage. Très curieux. Je faisais beaucoup d'efforts pour trouver la sincérité sur le visage d'un tueur. Mais il n'en reste pas moins que c'est un tueur qui ressemble à quelqu'un d'humain, enfin d'un être humain, je veux dire. Et c'est pour ça que moi, j'ai écrit il y a trois jours un article très en colère contre la manière dont Kadhafi a été exécuté. J'ai trouvé que c'était pas... Kadhafi, la manière dont il a été tué, c'est exactement la manière dont il tuait les autres. Il fallait pas faire comme lui. Il fallait justement le prendre, lui montrer que la révolution ou la révolte ou le changement, c'est d'abord le fait de lui donner la chance d'un jugement vraiment devant un tribunal intègre, juste, indépendant, et qu'il puisse expliquer pourquoi en 42 ans il a confisqué un pays et ses ressources, etc. Mais faire une vengeance quasi personnelle, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un vous a agressé dans la maison et puis vous êtes en légitime défense et vous le tuez. Et ça n'augure rien de bon dans ce pays, la Libye. Mais je le comprends par ailleurs, parce que ce que je raconte dans le livre, c'est que la Libye, c'est pas un État, c'est pas une nation. C'est un rassemblement un assemblage de tribus, de cinq tribus. Eh bien, l'esprit tribal, c'est pas l'esprit démocratique, c'est pas l'esprit moderne, c'est un esprit clanique qui a régné, qui a été possible avant le 7e siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam, tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Sauf que Kadhafi a créé dans sa mégalomanie, non, a créé un sorte de pays fantôme. Moi, je suis allé en Libye, j'ai visité ce pays et j'ai vu qu'un pays qui était bloqué complètement en dehors du temps, dehors de l'histoire et tout. Et en même temps, c'est quand même un chef, mais pas d'État, un chef de tribu, et qui finançait le terrorisme partout dans le monde. Mais et là, y a quelque chose, la responsabilité des Américains et aussi des Français était énorme dans le maintien de Kadhafi. Lorsque Kadhafi avait, la justice anglaise et américaine et française avait finalement démontré que ce sont ces services secrets qui avaient fait exploser l'avion de Paname sur le Kirby et puis l'avion de l'UTA français. Et qu'à l'époque, il s'est avéré que c'était vraiment les services libyens. Et alors, voilà que Kadhafi s'est mis à négocier avec George Bush et avec Chirac, enfin avec les représentants des uns et des autres, pour payer et on efface l'ardoise. Alors, à partir de ce moment-là, pourquoi voulez-vous qu'il devienne démocrate et pourquoi voulez-vous, à partir du moment où il peut acheter les crimes qu'il a faits? Et alors, quand j'étais en Libye, c'était au moment où il y avait cette négociation. Il a donné 2,7 milliards de dollars aux 270 familles, parce qu'il a fait 100 millions pour chaque famille américaine. Et il a donné en France 1 million de dollars pour chaque famille de victimes de l'UTA. Vous voyez un peu de... Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Ou bien il est innocent, il n'a jamais posé ses bombes et il ne faut pas qu'il paye. Et dans ce cas-là, il faut qu'on sache qui a fait ça. Ou bien il l'a fait et s'il paye, ça veut dire qu'il est coupable. Et s'il est coupable, il faut qu'il soit jugé. Et ça, c'est les Américains et les Français qui ont accepté de négocier avec lui plutôt que de le juger. Et c'est exactement comme cela se passe en Libye, dans les traditions tribales libyennes, ce qu'on appelle le prix du sang. Quand il y a un crime de passionnel, un fait divers, alors la famille ou le clan se réunit. Il n'y a pas, d'avocat, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de police, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils se réunissent entre eux, ils disent, vous nous livrez l'assassin ou alors sa famille va donner tant. Il rachetait son crime. La famille, enfin la tribu a racheté le crime. Et puis, ils lui disent, il faut pas qu'il apparaisse pendant un an ou deux. Mais ça, c'est j'ai suivi ça en Libye avec... il y avait un excellent archéologue qui travaillait d'ailleurs dans les cités archéologiques, enfin les merveilles en Libye, Monsieur Laronde, qui est décédé il y a même quelques mois, et qui connaissait très bien la Libye, et qui m'avait amené à rencontrer certains leaders de ces tribus libyennes à Tripoli. Et ils m'ont expliqué ça. Ils m'ont dit, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour eux, c'était ça la justice. Et Kadhafi, évidemment, il a été tué de la même manière, sans qu'on pense qu'il existe une justice universelle de droit et le droit de la victime, le droit de se défendre. Non. Et c'est pour cela que le pays qui va poser le plus de problèmes dans l'avenir avec sa révolte ou révolution, c'est la Libye. La Libye, ça va être un vrai problème parce qu'ils sont très loin d'avoir une structure moderne, démocratique. Ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas les traditions.
Alors, il y a un autre pays qui ressemble beaucoup, en tout cas qui me fait, moi qui connais bien ce pays, penser à ce que tu viens de dire de la Libye, c'est le Yémen, qui est également sur les mêmes structures.
Tout à fait, tu as raison, le Yémen, comme aussi je connais, j'ai été une fois visité, le Yémen, il est dans la même position, ce sont des tribus, et ce sont des tribus armées, ils sont tous armés. Tous armés.
En plus, effectivement.
Ils ont en plus, eux, le problème de la drogue, enfin de la drogue, c'est une espèce de casse qu'ils mâchent de midi à minuit, où le pays est absolument inopérable. On ne peut rien faire entre midi et minuit au Yémen.
Caté.
Le caté, il faut caté.
Voilà. Alors, donc, ensuite, après ces deux... Alors, on peut parler quand même de Moubarak également, parce que
ah,
c'est
oui.
un cas un peu différent.
Oui, bien sûr. Alors, c'est un cas différent parce que Moubarak, lui aussi, était persuadé qu'il faisait que du bien pour son pays. Il a fait quelque... Il a fait un certain nombre de choses qui n'étaient pas négatives pour son pays, c'est-à-dire qu'il lui a évité la guerre. Il a fait une... grâce à Sadat, une paix, il a signé une paix avec Israël, et c'est vrai que les deux guerres avec Israël ont été absolument dramatiques pour l'Égypte, pour le peuple égyptien, pour l'économie égyptienne, et que bon, en faisant cette paix, bon, Banca, c'est pas une vraie paix avec Israël, il a évité de nouvelles guerres, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'empêcher, une fois au pouvoir, de faire du népotisme, de favoriser sa famille, ses copains, ses coquins. Ils étaient là, ils faisaient l'Égypte, qui est un pays pauvre, qui est un pays merveilleux, extraordinaire, mais d'une très grande pauvreté, parce qu'il y a une très grande population qui vit dans des conditions... C'est le pays où la misère est... le pays du monde arabe où la misère est la plus visible, la plus insupportable, beaucoup plus que le Yémen, parce que le Yémen, c'est quand même il y a la pauvreté, mais il n'y a pas cette misère qu'il y a au Caire. Quand on arrive au Caire, où on voit 2 millions de gens habitent dans un cimetière, la cité des morts, c'est quelque chose d'assez terrifiant. Alors Moubarak, lui, il est parti avec l'idée qu'il fait du bien pour son peuple, et il ne comprend pas qu'en faisant ce bien et qu'en donnant la possibilité à ses amis de faire des affaires et lui-même à mettre de côté quelques milliards de dollars, comme d'ailleurs tous les autres, comme Ben Ali, comme Kadhafi, ils comprennent pas. Ils pensent que le pays, c'est leur maison. Le pays, c'est pas un État avec des structures, où l'argent, les deniers publics sont dans une structure bien établie. Non, c'est à moi. Tout est à moi. On se sert, en fait. Et ça, c'est quelque chose de typique de cette espèce de politique pas tribale cette fois-ci, mais familiale. On est là, on est entre nous. De toute façon, c'est la notion du droit objectif n'existe pas chez eux. Il n'y a que le droit personnel, finalement.
Et ça, parce qu'au-delà de la complicité de l'Europe, de certains pays européens, il y a aussi un laisser-aller du peuple pendant très très longtemps. Il y a quand même, tu viens de le dire, s'agissant de Moubarak, un héritage assez favorable de Sadat et avant de Nasser. Et s'agissant de Ben Ali, il a dilapidé complètement l'héritage de Bourguiba.
Ah oui, mais alors, Ben Ali... Ben Ali, il faut dire la vérité, il a dilapidé l'héritage de Bourguiba, sauf dans deux domaines, quand même, qui sont importants. Un, la condition de la femme. Ben Ali n'a pas changé le code de la famille tunisienne, qui était le meilleur code de famille dans le monde arabe et musulman, qui le reste jusqu'à présent. On verra après ce qui va se passer. Il n'a pas touché à ça. Ce qui est important, et la femme tunisienne est une femme qui s'exprime, qui existe, qui lutte et qui ne se laisse pas faire. Bon. Deuxième point auquel il n'a pas touché, c'est, je dirais moi, la tendance laïcisante de l'éducation nationale. Et Ben Ali, tout corrompu qu'il était, a quand même fait quelque chose d'absolument révolutionnaire pour moi, et je l'ai salué à l'époque pour ça. Il a chargé Mohamed Cherif, qui était à l'époque le grand militant des droits de l'homme en Tunisie, pour lui dire, il a nommé comme ministre de l'Éducation nationale, maintenant vous allez nettoyer et refaire les manuels scolaires, Mohamed Chafi, les manuels scolaires tunisiens. Et ça, c'était révolutionnaire, parce que pendant 3 ans, et j'avais visité à l'époque Mohamed Chafi, il avait une équipe de 100 personnes qui ne faisait qu'une seule chose, c'est reprendre tous les manuels scolaires et les nettoyer de tous les du racisme, de l'antisémitisme, du mépris de la femme, de l'intrusion de versets du Coran pour expliquer telle ou telle chose. Ils ont fait un travail remarquable. Et une fois que Mohamed Charfi a terminé son travail, il a démissionné et il a repris ses libertés, sa liberté en tout cas. Ça, c'était bien. Mais le problème de Ben Ali, c'est qu'ensuite, il s'est considéré propriétaire de la Tunisie comme on peut être propriétaire de sa ferme. Et il s'est installé, il a fait avec sa femme, évidemment, ce que tout le monde sait, c'est-à-dire l'espèce de dépidation du pays et des biens. Mais ça, c'est typique des dictateurs, avec en plus une répression féroce pour toute opposition. Même quand elle était strictement laïque, elle devenait une opposition religieuse. Parce que pour lui, il disait aux Français, aux Européens, il disait, moi je suis là pour lutter contre l'islamisme. Moi, je suis le rempart contre l'islamisme. Et ça a marché. La preuve, c'est qu'il a mis en prison des centaines et des milliers de torturés à mort plusieurs militants. Et parfois, parmi les militants, il y avait des types qui n'avaient strictement rien avec l'islamisme.
Et tout cela avec une certaine coquetterie, l'un comme l'autre, veillait à ne pas avoir le moindre cheveu blanc.
Oui. Une des images les plus atroces de ce assassinat de Kadhafi, ça a été envoyé pour la première fois sa calvitie, parce qu'il faisait tout pour qu'on ne voyait pas sa calvitie. Mais c'est intéressant de voir les trois d'ailleurs, Kadhafi, Mbak et Ben Ali, ils avaient un souci du paraître, bien sûr, et aussi du cheveu. Le cheveu, pour eux, c'est le symbole de la virilité, le symbole de la jeunesse, le symbole de l'existence, finalement. Et ils tenaient tous à atteindre leurs cheveux. Et Kadhafi a été beaucoup plus loin, lui. Il s'est fait implanter cheveu par cheveu, toute une chevelure ridicule. Il était dans le summum du ridicule. Mais c'est intéressant d'un point de vue psychanalytique de voir comment un chef d'État qui est dictateur, qui est voleur, qui est horrible, comment il a aussi un comportement de petit con.
Enfantin,
de petit con. Voilà, c'est comme un. Vous savez, c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que ne pas assumer sa gueule, comme disait Léo Ferré, quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, c'est autre chose. Bon, ben, il faut l'assumer et le principal, c'est pas ce qui apparaît, mais ce qu'on fait. Or, les trois n'ont fait que des saloperies. Et les saloperies se retrouvent dans leur façon de vouloir paraître et effacer ou cacher plutôt le fond des choses, le fond des problèmes.
Oui, c'est qu'ils avaient le sentiment que en ne donnant pas l'impression qu'ils vieillissaient,
c'était éternel.
Voilà, ils étaient éternels. Ils pouvaient se représenter
et
à n'importe quelle élection.
Et je suis sûr qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vivre 150 ans. Je suis sûr de ça parce qu'ils ont persuadé. Parce qu'ils disent, après tout, c'est vrai. Ils sont dans une sécurité totale, ils mangent uniquement les choses qui sont bonnes, ils sont protégés, tout le monde leur obéit. Pourquoi mourir? Ben oui, la vie est éternelle, ils sont déjà au paradis. Pourquoi on va aller? Alors je voudrais quand même dire un mot sur les élections tunisiennes, ce sont les élections de la constituante. Ce ne sont pas des élections ni législatives, ni municipales, ni présidentielles. Bon, on voit que Ennahda, le mouvement islamiste, est arrivé à peu près à 30% des votes. Ce n'est pas la majorité non plus. Cela dit, et j'ai vu un peu les titres des journaux aujourd'hui, l'islamisme. Si les Tunisiens décident démocratiquement et dans une totale transparence de passer par l'expérience islamiste, de donner le pouvoir à des islamistes, eh bien, c'est leur affaire. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, en tant que laïc, ça ne me fait pas plaisir, mais je ne vais pas non plus faire un coup d'État pour dire non, comme on a géré en 91, et ça s'est soldé par une guerre civile de 15 ans. Non. Il faut qu'on respecte, puisque l'élection, apparemment, s'est passée dans des conditions totalement transparente et juste. Bon, c'est le désir. Et j'ai écouté l'autre jour sur la radio un jeune Tunisien qui expliquait pourquoi il allait voter Nahda. Il avait des arguments, c'est un jeune, hein, c'est pas un homme politique, mais il avait des arguments sensés. Il disait, moi je me sens bien avec les valeurs de l'islam, Les valeurs de l'Occident ne me touchent pas. Ça ne c'est pas mon rêve. Moi, je suis bien dans ma peau avec l'islam. Bon, évidemment, il disait, moi, je suis pas pour obliger tout le monde à être comme moi. Enfin, il disait un petit peu ça. Bon, s'ils veulent faire leur expérience, qu'ils la fassent. Et on verra après.
Justement, il y a une divergence d'interprétation, il me semble, entre toi et moi, là, à propos de l'Algérie, dans le chapitre sur l'Algérie. Dans le chapitre sur l'Algérie, tu dis que si l'Algérie ne sait pas, les Algériens ne se sont pas révoltés comme les Tunisiens, les Libyens et les Égyptiens, c'est parce que le pouvoir est entre les mains de l'armée et n'en bougera pas. Est-ce que c'est pas aussi et surtout parce qu'ils ont fait l'expérience à la suite de ces élections tronquées de 10 ans de guerre abominable et qui ne veulent absolument plus passer par là?
Absolument. Le peuple algérien, qui est un peuple formidable, est un peuple très fatigué. Il n'y a pas une famille qui n'a pas perdu un membre de sa famille dans ces guerres, cette guerre horrible, terrible, qui a été d'ailleurs une guerre noire, obscure. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne connaît pas où sont les islamistes. On ne connaît pas si l'armée a fait telle ou telle chose. C'est un pays où l'information existe dans les médias privés, où ils arrachent la liberté d'informer. Mais en même temps, c'est un pays qui est tenu d'une main de fer par l'armée depuis 1962. L'armée n'a jamais quitté le pouvoir. Elle met en avant un civil comme Bouteflika. Chedli n'était pas général, non? Il était quoi, Chedli?
Il était... Il était dans l'armée, un officier.
Bon, quand ils ont amené Boudiaf,
c'était le seul civil.
Civil, ils l'ont assassiné 6 mois après. Donc, c'est un pays qui pose un vrai problème. Et l'Algérie, elle est vraiment dans une situation d'attente, de fatigue physique et mentale. Et je pense que si ce pays un jour se débarrassera des militaires, je pense que le pays arabe qui sera peut-être le plus démocratique, qui va nous étonner par son imagination et sa création, parce que c'est un peuple qui a tellement souffert et qui a vécu toutes les situations possibles, imaginables, depuis les Turcs, la présence turque et la violence. C'est un pays où la violence a des racines malheureusement très profondes. Les Français, quand on lit, là justement je reviens au Goncourt, quand on lit Alexis Génie et qui raconte la partie algérienne, ou alors d'autres livres. Moi j'ai lu le livre de Michel Schneider, L'ombre. L'ombre d'un frère.
Et celui de Mauvigné aussi.
Oui, Mauvigné aussi. Et maintenant, la littérature française commence à prendre l'Algérie comme thème littéraire. Et on se rend compte que les atrocités étaient des deux côtés, mais d'une manière. C'est très spécial. Hein. C'est quelque chose. Et puis aussi le livre de Boualem Sansal, La rue Darwin, pas uniquement dans ce livre-là, mais dans d'autres livres, qui ont témoigné. Tous ces livres-là témoignent sur cette violence profonde qui vient de très loin, qui vient parce que c'est un pays qui a été dépossédé de son identité depuis très longtemps. C'est un pays qui n'a pas qu'on n'a pas laissé en paix, qu'on n'a pas laissé évoluer, qu'on n'a pas laissé vivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Algérie, tout le monde la regarde avec un œil, je dirais, de beaucoup de sympathie, parce que réellement, je pense que les gens aiment ce pays, aiment ce peuple, mais en même temps, on a peur pour lui, on a peur que, du fait de ce qu'ils ont vécu, les Algériens, ils ont vécu des années d'atrocités, où l'intelligence algérienne a été massacrée, assassinée les uns après les autres. C'est-à-dire on assassinait systématiquement tous ceux qui réfléchissaient, qui pensaient. On a assassiné des médecins, des psychanalystes, des psychiatres, sociologues, des écrivains. On était en train de décapiter l'intelligentsia algérienne et on n'a jamais su qui était derrière. C'est ça ce qui est terrible.
Alors, il y a également quand même ce problème de l'éducation qui a été évoquée tout à l'heure, c'est une nécessité, l'éducation, mais on voit bien que parmi les révoltés tunisiens, libyens, marocains également, il y a énormément de chômeurs diplômés. C'est quand même un problème.
Ça, c'est le drame de, je dirais, le drame moderne, c'est dans le, en tout cas dans le monde arabe, partout. C'est de voir de plus en plus de jeunes qui arrivent avec des diplômes et qui n'ont pas de travail. Et au Maroc, ça a commencé, les diplômés chômeurs, à manifester il y a plus de 20 ans. Ils continuent de manifester tout le temps. Et c'est un vrai drame parce que c'est un drame qui a des répercussions sur toute la société, parce qu'on voit les jeunes qui sont au lycée, ils disent, alors pourquoi je vais bosser, moi, pour travailler, avoir des diplômes, si mon frère ou mon cousin se retrouve aujourd'hui dans un sitting en train d'attendre, ou alors si on propose garçon de café à mon frère qui a un certificat de biologie ou quelque chose comme ça. Ça pèse énormément sur l'image de la société et la manière dont ça fonctionne. Alors, évidemment, de temps en temps, on leur trouve du travail, mais c'est pas... Et ça, c'est un drame qui a été d'ailleurs un peu partout, aussi bien en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Égypte et dans d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose... qu'on n'a pas prévu, mais qui a été le révélateur d'une crise profonde dans les inégalités, pour ce qui concerne les inégalités sociales dans le pays.
Alors, il y a quelques autres pays dont on n'a pas parlé, la Syrie, par exemple.
Quand j'écrivais le livre, la Syrie, ça commençait à peine à bouger. Mais je dirais que la Syrie serait... C'est un peu comme l'Algérie, parce que la Syrie est maintenue entre les mains d'une famille, d'un clan minoritaire, les Alaouites, qui est une tendance de l'islam, et qui tient le pays depuis plus de 40 ans, avec Hafez al-Assad, maintenant Bachar al-Assad. Et le frère de Bachar al-Assad, ils ont hérité de leur père la manie d'assassiner. Ce sont des assassins. C'est des criminels. Leur père a donné l'exemple avec la ville de Hama quand il a bombardé cette ville pour tuer tout le monde parce qu'il y avait une réunion des frères musulmans. Il a tué tout le monde. Tranquille. Et puis le fils continue. Il continue et le frère aussi.
Et là, pourquoi personne ne bouge?
Alors, le problème de la Syrie, c'est que elle se trouve dans une situation stratégique extrêmement favorable pour ce clan dictatorial et en même temps très délicat pour les autres. C'est-à-dire, elle est... Alors, d'abord, les Libanais, j'étais au Liban il n'y a pas longtemps, eux ils suivaient la situation syrienne de très près parce qu'ils disaient que, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, la Syrie va leur faire payer la facture. Parce qu'ils n'ont jamais supporté le fait d'avoir, en 2005, été... sortis du pays, ils sont vengés en assassinant Hariri et les intellectuels comme Samir Khassir et d'autres. Ensuite, ils ne pensent qu'à une chose, c'est de retourner au Liban. La frontière avec Israël, la frontière avec la Jordanie, avec l'Irak, c'est un pays qui est enclavé comme ça et quoi qu'on fasse, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et puis, c'est comme il y a dans ce pays 1 million de chrétiens qui, eux, de peur de se retrouver dans un pays islamiste, parce que l'islamisme est toujours menace, eh bien, les chrétiens soutiennent le régime de Hafez al-Assad en sachant pertinemment que c'est un régime dictatorial et absolument insupportable. Alors, la seule chose qui peut sauver la Syrie, c'est un coup d'État de l'armée. C'est-à-dire que des officiers de l'armée décident d'en finir avec la famille Assad. S'ils le font, avec bien sûr la complicité et l'appui de l'opposition qui s'est bien structurée à l'extérieur, et même à l'intérieur, il y a une opposition, mais il y a peur, elle ne peut pas s'exprimer beaucoup, peut-être que la Syrie sera sauvée. Mais on ne sait pas ce que ça donnera. La peur de tout le monde, c'est que ça donnera un nouveau Irak. et l'Irak d'aujourd'hui, après que M. Bush a apporté dans ses bancs la démocratie, vous savez très bien ce que ça a donné par la suite. Donc le cas irakien n'encourage pas du tout les Syriens à... Enfin, il faut en finir avec la famille Assad, qui sont des criminels, et les juger surtout. Mais ça ne peut se faire que par les Syriens eux-mêmes. Il faut surtout pas qu'il y ait une intervention extérieure, ce qui était différent pour la Libye, puisque la Libye, il y avait une, disons, stratégiquement et géographiquement, il était possible d'empêcher ou de rendre moins grave l'assassinat des rebelles libyens par les clans Kadhafi.
Et enfin, bon, il y a le Maroc.
Ah oui, alors là,
le Maroc,
on laisse le meilleur pour la fin. Hein.
Voilà. Non, c'est le pays envers lequel tu es le moins sévère. On comprend pourquoi. Mais oui. Moi, je le comprends aussi. Ayant vécu au Maroc sous Hassan II, il y a quand même une nette évolution avec Mohamed VI.
Non, alors, justement, c'est ça ce que j'essaie un peu de faire comprendre à certains amis qui me reprochent mon indulgence. C'est pas de l'indulgence, parce que d'ailleurs dans le livre je dis ce qui va pas dans le Maroc. Et ce qui ne va pas, ce sont des choses fondamentales. La corruption est un élément d'arriération et de non-développement qui est dramatique, parce que la corruption, c'est pas uniquement une maladie localisée dans certains secteurs. Elle touche tous les secteurs de la société. La justice, la santé, l'administration, tout.
Et excuse-moi, c'est un facteur commun au monde arabe.
Peu importe. Pour le Maroc, le fléau numéro un, c'est la corruption. C'est quelque chose d'insupportable. C'est quelque chose on ne peut pas évoluer dans une société si on peut acheter un passe-droit, si on peut acheter la justice, si on peut acheter le médecin, si on peut acheter la clinique. C'est pas possible. Mais ça, le problème, c'est qu'il y a maintenant, le roi Mohamed VI est conscient de tout ça. Il a créé une commission de lutte contre la corruption. Mais c'est comme en Italie, toutes les commissions de lutte contre la mafia, ni vu ni connu, ni pris. C'est impossible. C'est-à-dire, moi, j'ai proposé au Maroc de faire un travail sur la corruption le long terme, et de commencer une pédagogie, comme je l'ai fait pour le racisme, pour la lutte contre la corruption à partir de l'école primaire, et d'apprendre aux enfants que corrompre, c'est le mal absolu. Comme on leur apprend de ne pas voler, comme on leur apprend de ne pas mentir, de ne pas trahir, de ne pas tuer, et ben il ne faut pas corrompre. Corrompre, c'est-à-dire acheter quelque chose que tu ne dois pas acheter. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut... c'est un des éléments pour lutter contre la corruption. Donc la corruption, c'est un mal terrible. Deuxième point, élément que je critique sévèrement au Maroc, c'est il n'y a pas jusqu'à présent de politique d'éducation qui a marché. Toutes les politiques d'éducation ont été une catastrophe, parce qu'on n'a pas encore décidé quelle langue on va parler dans ce pays, quelle langue on va utiliser. Alors, nous sommes entre... il y a des études qui se font, enfin, des lycées qui se font en arabe. À côté, vous avez des lycées privés de la mission qui se font en français, d'autres qui sont bilingues. Il y a...
Et maintenant, l'anglais...
Un peu. Bon, il y a une sorte de désordre pédagogique au Maroc, et qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne unifie pas tout ce monde-là. Là-dessus, avec la nouvelle constitution, nous apprenons que le tamazight est une langue reconnue du pays, ce qui est une très bonne chose, parce que, contrairement à l'Algérie qui refuse de considérer sa part berbère, ben, le roi, lui, a dit, bon, ben, la langue du Maroc, l'identité marocaine, il est arabe, il est aussi berbère, et la langue berbère, enfin, tamazight, doit aussi être enseignée, ce qui fait que nous avons maintenant au Maroc une télévision et puis des radios libres en tamazight, et la langue tamazight est appelée à être enseignée dans les écoles. Bon, mais on n'a pas pour autant résolu le problème de l'éducation nationale. Troisième point dramatique au pays, c'est l'état de la santé. Les hôpitaux publics marocains sont dans un état déplorable parce que, encore une fois, la corruption, parce que l'argent qui est donné pour les hôpitaux publics est souvent détourné et les gens se tournent vers les cliniques privées qui sont aussi chères qu'en France et c'est une santé qui est faite pour les riches et pas pour les pauvres. Et ça, c'est un troisième point essentiel. Bon, dans ce... Avec ce tableau inquiétant, on a quand même des progrès avec Mohamed VI qui, lui, a d'abord voulu absolument se démarquer de l'héritage dictatorial de son père. Et ça, c'est très intéressant. La première chose, d'abord, il a fait réformer le code de la famille. C'est essentiel. Il n'est pas... Ce n'est pas un code merveilleux, mais c'est pas mal. Ensuite, il a ouvert tous les dossiers de la répression. Il y a 29 000 dossiers qui ont été étudiés par une instance qu'il avait installée pour que plus jamais on ne torture plus les gens, on ne les envoie pas disparaître, je ne sais pas où. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien aujourd'hui dans les commissariats. Je ne souhaite à personne de se retrouver dans un commissariat et... N'importe où, mais enfin, c'est, il y a quand même un progrès. Par ailleurs, le pays est doté de nouvelles infrastructures. C'est très important pour le sur plan économique. Il y a une croissance qui est quand même visible. Le chômage est là, bien sûr. On a parlé du chômage des jeunes. Mais là, sur le plan économique, il y a des efforts qui sont faits. Mais c'est un pays pauvre. Il n'a pas la richesse de son voisin algérien. Mais il y a autre chose, il y a comme une liberté. On peut s'exprimer librement. La presse est libre, à condition bien sûr de ne pas s'attaquer à la famille royale, de ne pas parler de la vie privée, de machin. Enfin bref, il y a quand même quelques tabous qu'il ne faut pas toucher. Mais dans l'ensemble, par rapport à ce que tu as connu au Maroc de Hassan II, nous sommes passés de... vraiment d'un âge préhistorique à un âge moderne. Et ce qui est bien au Maroc, c'est que les gens ne contestent pas à tout ça, ce que je viens de dire, mais ils veulent mieux et plus. C'est pour ça que le mouvement du 20 février maintient la pression. Et c'est formidable parce qu'ils sortent tous les dimanches manifester. Dimanche, j'étais à Tanger, il y a eu à peu près un millier de personnes. Ils manifestent. Ils réclament la fin de la corruption, ils réclament une justice intègre, ils réclament, et ça c'est bien, ils réclament des valeurs. Vous comprenez, ils réclament pas des choses matérielles, ils réclament le respect de valeurs. Et le mouvement de 20 février manifeste tous les dimanches dans tout le Maroc, en toute liberté, il n'est pas réprimé, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de tabassage des gens, ni rien. Ça fait, et bien ça, dans le monde arabe, ça fait un cas à part. C'est pour ça que moi, je défends l'exemple marocain avec, bien sûr, toutes les critiques que j'ai dites et qui sont publiques. Ce sont des choses que j'ai écrites, on doit travailler un peu plus pour arriver à un Maroc qui deviendra, j'espère, un exemplaire. Mais pour le moment, on a des vrais problèmes de chômage, de misère, de pauvreté et d'inégalité sociale permanente.
Et la réforme du régime monarchique, il faut y arriver.
Ça, c'est pas mal aussi parce que... Alors, évidemment, le mouvement du 20 février voudrait que le roi devienne comme Juan Carlos, un peu symbole. Mais le roi ne veut pas. Il veut quand même diriger un peu le pays. On verra, de toute façon, on verra comment vont tourner les élections. Et le nouveau Parlement. Alors, le problème, encore là, un problème très précis. Le roi dit dans un discours, il demande aux élites intellectuelles, cultivées, de se présenter aux élections législatives. Eh bien, ils ne se présentent pas. Pourquoi ? Parce que on a pris l'habitude de voir que des voyous, des hommes d'affaires, se précipitaient sur les élections législatives. Non pas pour représenter vraiment le peuple, mais pour en profiter pour faire des affaires. Or, moi, j'ai proposé dans un article, j'ai dit, il faut dorénavant qu'un député ne profite pas de sa fonction pour, par ailleurs, avoir un bureau à côté pour faire des affaires juteuses. Il ne faut plus qu'il y ait ça. Alors, quelqu'un m'a dit, mais plus personne ne va se présenter. On a un vrai problème.
Et la confiance n'existe presque plus entre la politique n'est pas encore totalement assainie et propre. Les gens voient très bien que les députés arrivent et ils font rien pour le village ou le quartier qui les a élus. Mais ça, il faut du temps, hein. Il faut beaucoup de temps pour qu'on s'habitue à la démocratie. Parce que, contrairement à ce que disait ce salopard de Bush, la démocratie, c'est une culture. Il faut du temps pour qu'elle s'installe dans les mentalités, dans les relations entre les uns et les autres. Moi, j'ai toujours dit, la démocratie commence à la maison. Comment tu traites ta femme, comment ta femme te traite, comment tu traites tes enfants, comment les enfants traitent les voisins, etc. Ça commence à la maison. Si à la maison, il n'y a pas de respect entre nous, il n'y a pas le respect des droits de chacun, je pense que cette même personne dehors va se conduire de la même manière.
Alors, pour répondre et globalement à la question qui fait le chapitre 3, le titre du chapitre 3, révolte ou révolution dans ces pays-là?
Pour moi, c'est direct, c'est révolte, parce qu'une révolution, c'est quelque chose qui se prépare d'abord avec une idéologie, un parti, des leaders, une infrastructure qui s'installe. L'exemple le plus récent de révolution, c'est la révolution iranienne, qui est dégueulasse entre nous, mais enfin bon, ça c'est sur le plan structurel. C'est une révolution, parce qu'on a changé de régime avec tout un appareillage, on a remplacé les choses, c'est une autocratie religieuse, extrêmement rétrograde et d'une démocratie. Il y a une certaine démocratie en Iran quand même. C'est pas une dictature à 100%, mais avec c'est une révolution. La révolte, c'est quoi? La révolte, c'est l'exaspération qui se traduit par la colère. La colère qui n'est pas structurée, qui n'est pas canalisée. On l'a vu par exemple comment les Égyptiens ont petit à petit improvisé la place Tahrir qui est devenue le lieu de rassemblement de la contestation. Ce n'est pas une révolution. Là, la Tunisie et l'Égypte vont peut-être transformer leur révolte en révolution. S'ils parviennent à réussir la transition vers une démocratisation des institutions et des structures politiques. Mais ça, on le verra dans plusieurs années.
Et alors, question piège pour terminer, avant de laisser la parole à la salle. Enfin, ce printemps, je te cite, hein, ce printemps signe la défaite de l'islamisme. Les militants islamistes furent absents et surpris par l'ampleur des manifestations. Ils ont été si absents que cela et si surpris que cela, ou ils se cachaient?
Absolument. Non, absolument. Ça a été le vrai problème des islamistes. Bon, entre eux, ils ne s'entendaient pas. Je prends le cas des frères musulmans en Égypte parce que c'est le mouvement le mieux implanté et le plus ancien, depuis 1928. Et qui a une histoire. Sauf que le mouvement des frères musulmans en Égypte est traversé par plusieurs tendances. Il y a des tendances des vieux barbus et des jeunes. Notamment, il y a des jeunes qui ont fait des études à l'étranger, etc., et qui ne sont pas d'accord avec les vieux. Et ils ont été complètement dépassés par les révoltes. Parce que si c'était une révolution, ils se seraient inscrits dedans. Là, c'est une révolte, donc ils n'ont pas pu prendre le train en marche. Le fait que, en Tunisie, aujourd'hui, on voit un Nahda qui s'installe comme un mouvement qui a son mot à dire, vient du fait que on a interdit, Ben Ali avait interdit le voile, avait interdit toute manifestation pouvant rappeler l'islamisme.
Et
Et alors, bien sûr, ça c'est. Et maintenant, c'est une revanche, c'est-à-dire que c'est un peu le revers d'une répression. On a réprimé les islamistes, maintenant qu'ils sont libres, ils renaissent. Cela, à mon avis, c'est quelque chose qui est assez superficiel et qui ne va pas tenir, dans la mesure où en Tunisie, il y a quand même d'autres mouvements laïcs qui ont autant de légitimité à exister que les islamistes. Mais nous sommes loin de l'islamisme armée que nous avons connue en Algérie et qu'on a connue aussi avec la branche bon, la plus terroriste, la Al-Qaïda, mais ça c'est une autre histoire. En Égypte, il y a une lutte actuellement quotidienne entre les religieux et les laïcs. Qui va leur remporter la victoire? On ne sait pas. Mais c'est le début de la démocratie. On est obligé de passer par ça. Alors si, comme je disais tout à l'heure, l'Égypte ou la Tunisie, ou même le Maroc, on verra aux élections du 25 novembre, choisit de se faire guider par des islamistes, pourquoi pas, tout en restant excessivement vigilant dans une structure démocratique où on peut renverser par la démocratie, par le vote et par le débat libre une politique qui ne correspond pas à la modernité à laquelle nous aspirons. Si par exemple, moi je vois au Maroc que si les islamistes arrivent au pouvoir, ils ont un programme effrayant du genre, ils vont fermer les bars, ils vont fermer ils vont interdire d'une manière très efficace la consommation de l'alcool. Ça touche 80% du Marocain. Alors vous voyez un peu, vous allez toucher les gens dans leur intimité. On va pas non plus commencer à enfin, vraiment, c'est quelque chose qui passera pas. C'est-à-dire que les gens, ils n'aiment pas non plus être réprimés dans leur vie quotidienne, dans leur façon de s'habiller, de vivre et de consommer. Donc, il y a une vigilance qui est faite et on verra ce que ça va donner.